trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Céline Picmal-Prade est à nos côtés, présidente de Picmal Houghton Investments. Bonsoir Céline.
Bonsoir Grégoire.
Merci d'être là. Yves Maillot nous accompagne également. Bonsoir Yves.
Oui, bonsoir Grégoire.
Ravi de vous retrouver. Vous êtes président de YAM Capital et avec nous également Julien Pierre Nouan. Bonsoir Julien Pierre. Vous êtes directeur des études économiques et de la gestion diversifiée de Lazard Frères Gestion.
Bonsoir,
c'est
Grégoire.
Le chiffre du jour, le chiffre du mois. Le rapport mensuel sur l'emploi américain, Pauline a rappelé les détails, plus de 300 000 créations, taux de chômage qui retombe à 3,8%, je crois qu'on a même le taux de participation qui réaugmente, le nombre d'heures travaillées sur la semaine également a augmenté au cours du mois de mars. Ça semble être une excellente nouvelle. Est-ce que ce genre d'excellente nouvelle reste une bonne nouvelle également pour les marchés, les investisseurs, Julien Pierre?
Alors ça montre effectivement que l'économie américaine est plutôt sur un scénario de no landing, hein, après avoir passé 2023 à hésiter entre le soft landing et le hard landing. On voit plutôt donc depuis quelques mois une réaccélération qui se confirme dans ces chiffres. Au-delà du chiffre global de création d'emplois, on a un nombre d'heures travaillées qui remonte aussi. Et une des inquiétudes qui avait émergé sur les deux derniers chiffres était l'écart entre l'enquête auprès des entreprises et l'enquête auprès des ménages. Avec une enquête auprès des ménages qui montrait des fortes destructions d'emplois. Et là, on a retrouvé des créations d'emplois tout aussi fortes que dans l'enquête auprès des entreprises. Donc clairement, ça montre que l'activité reste bien orientée. Alors pour les marchés, ça a deux conséquences. Et la première, c'est que ça nous dit que voilà, le volume d'activité des entreprises va rester bien orienté. La deuxième question sur laquelle là, il y a plus d'incertitudes, c'est que se passe-t-il au niveau du marché du travail et, in fine, des salaires et de l'inflation. Et est-ce que cette activité qui reste très solide, elle va régénérer des tensions sur les salaires? Là, c'est vrai que le chiffre était assez modéré, quoique c'est un 0,3 qui est un gros 0,3, on est à 0,35 en fait.
Sur un mois, c'est ça,
sur un mois.
La progression du salaire horaire moyen.
Ouais. Et puis il y a des effets aussi de composition, on attendra les données de la Fed d'Atlanta. Mais pour nous, ça va être vraiment l'enjeu des prochains mois, de savoir cette économie américaine qui ne veut pas ralentir, est-ce qu'elle va régénérer des tensions sur le marché du travail et sur les salaires?
Jusqu'à présent, et c'était il y a encore à peine quelques semaines, je crois, Jérôme Poel nous disait... Une forte croissance du marché du travail n'est pas une raison pour ne pas baisser les taux directeurs de la Réserve fédérale américaine. C'est à ce stade toujours l'inflation qui compte, Julien Pierre.
Oui, c'est l'inflation qui compte. Et encore, on a vu effectivement le dernier graphique des DOTS et les dernières prévisions de la Fed nous disaient toujours trois baisses de taux. Et malgré des révisions en hausse sur la croissance 2024, une légère révision en hausse sur l'inflation 2024, et on se disait que la Fed était effectivement à l'aise avec une activité qui reste solide tant que l'inflation donne le sentiment d'aller dans le bon sens. Ça, c'était vrai sans doute aussi parce que les anticipations de marché restaient bien orientées. Si à un moment... on recommence à avoir de l'inquiétude et c'est vrai que on voit des choses comme le prix de l'or qui progresse fortement. Donc, est-ce que les marchés risquent pas à un moment de mettre en cause la crédibilité de la Fed? Il y a un éditorial de The Economist aujourd'hui qui pose cette question. Voilà, dans l'immédiat, pas forcément, mais c'est vrai que ça peut être le sujet des prochains mois.
Bon. Est-ce que la Fed joue avec le feu? Je ne sais pas quelle est votre lecture de la situation du cycle américain aujourd'hui, à travers les entreprises que vous pouvez suivre, bien sûr, Céline. Et est-ce que de voir des chiffres encore aussi forts, est-ce que ça reste une bonne nouvelle pour les investisseurs actions, pour les actifs risqués? Moi, ce qui me fascine, c'est combien le marché a effacé de baisses de taux ces 3-4 derniers mois sans impact sur les marchés d'actifs risqués. On était à 6-7 baisses de taux anticipées. On n'est peut-être plus qu'à 2 ou à un peu plus de 2 aujourd'hui avec un démarrage qui ne serait plus forcément en juin ou juillet, mais peut-être en septembre. Et le marché semble continuer d'accepter cette idée.
Jusqu'à quand? Donc effectivement, c'est la question du jour.
C'est ça.
Mais comme le disait à l'instant Julien Pierre, on est quand même dans un environnement où on voit qu'on retrouve de la tension, notamment sur le marché obligataire. Et des taux qui sont en train de remonter vers 4,4, 4,5, ça va finir par peser.
Et ça là, c'est des mouvements importants.
C'est des mouvements importants. On attendait effectivement, on a anticipé, parce que les marchés actions, ils anticipent. Donc toute l'année dernière, on a eu des marchés qui ont progressé parce qu'on anticipait les baisses de taux. Aujourd'hui, maintenant, on est en train d'anticiper qu'on n'aura plus de hausse des taux, en tous les cas, que si on a des hausses des taux, elles interviendront beaucoup plus tard que ce qui avait été anticipé.
Baisse de taux. Baisse,
oui,
pas hausse.
Baisse de taux,
oui, oui.
Voilà.
Non, mais oui. Non, parce que certains pensent qu'il y aura peut-être des hausses de taux encore.
Et donc, ce qui est important quand même, c'est qu'ici, on parle de finance. Et quand on fait de la finance, on calcule la valeur des actifs en prenant en compte un taux de enfin, un discount rate. Voilà.
Ouais.
Et donc, quand on prend un taux qui est plus élevé, vos actifs, mais oui, mécaniquement, doivent baisser en valeur. Donc, c'est toute la question que je me pose aujourd'hui. Donc, je suis convaincu que nous allons atteindre. Alors, ce qui est très difficile avec ce type d'indicateur, c'est qu'on ne peut pas savoir à quel moment le marché les prend en compte. Mais ce qu'on sait, c'est que historiquement, quand on a une augmentation du coût du crédit ou un renchérissement du coût de l'argent, ben, ça finit par avoir un impact sur la valorisation des actifs. Ça a toujours été le cas, mais l'anticipation est très difficile et ça arrive à un moment, en plus, qui est très délicat, puisque aujourd'hui, si vous regardez la valorisation des sociétés technologiques américaines, on est à 8,2 fois les ventes. On est au-dessus du poids haut qu'on avait eu à 8,18 avant le krach de 2022, et on est au-dessus du 7,8 de 2000. Donc on n'est pas en train d'arriver sur un environnement de marché un peu plus compliqué avec des valorisations qui nous laissent une marge de sécurité, comme dirait Benjamin Graham. Donc c'est, pour moi, une grosse, grosse question. Et pour finir, parce que pour revenir sur ce point-là, on me dit souvent, oui, mais Céline, il y a beaucoup de croissance.
Dans la tech.
Partout.
Partout.
Il y a beaucoup de croissance.
D'accord.
Mais donc ça peut justifier qu'on ait effectivement
des multiples plus élevés.
Des multiples plus élevés. Et là, je vous enjoins à regarder ce qu'il se passe entre 2000 et 2024 pour une société qu'on connaît tous très bien qui s'appelle Cisco, qui était la plus grande société au monde en 2000, qui se valorisait à 37 fois les ventes. Ouais. Aujourd'hui, Nvidia, c'est 37 fois les ventes. Ouais. Entre 2000 et 2024, les bénéfices de Cisco, ils ont été multipliés par 10. Le cours de bourse, moins 39%. Donc il faut quand même un petit peu faire attention parce qu'on fait de la finance. On n'est pas en train juste de vouloir trouver des sociétés qui ont la croissance de bénéfices.
Mais c'est là où je trouve que le marché est parfaitement cohérent. Qu'on puisse légitimement imaginer que ce soit difficile pour la tech américaine de se payer beaucoup plus cher avec en plus des taux qui remontent, j'ai pas de problème là-dessus. Mais ce qui a fait le marché, en tout cas ce qui a été leader de marché sur le premier trimestre, c'est la zone Japon. Ce sont les actions européennes zone euro tirées par les banques, tirées par l'automobile, tirées par l'industrie, tirées par des secteurs cycliques à duration quand même plutôt courte, alors, comme on dit.
Pour remettre les choses en perspective, Nvidia,
oui,
c'est un cinquième de la progression des marchés boursiers mondiaux sur le premier trimestre.
D'accord.
Un cinquième.
Ouais. C'est colossal juste, pour une seule valeur.
C'est 20% monde.
Pas de doute
monde
là-dessus.
Voilà. Non, c'est juste. Oui. Voilà. Alors effectivement, il y a des choses en parallèle qui se sont bien comportées, mais c'est quand même énorme.
Ouais.
Non, donc ma problématique aujourd'hui, c'est mon niveau de dépendance. En fait, c'est juste que effectivement, si jamais demain j'ai un petit blip sur une de ces valeurs qui peut d'un coup représenter 20%,
ça peut embarquer l'ensemble du marché derrière.
Mais mon problème, ça va être sur les indices. D'accord. Aujourd'hui, mon problème, c'est qu'il y a plus de la moitié des investisseurs qui sont investis sur des trackers et sur de la gestion indicielle. Et donc ça me pose quand même un gros problème.
Ouais.
Voilà. Mais on verra ce qui se passe
sur
la fin de l'année.
Ouais. Puis les résultats vont revenir bientôt. La semaine prochaine, on va rentrer à nouveau dans la séquence micro avec les résultats du premier trimestre. Yves, revenons sur la dynamique du marché américain et du marché de l'emploi américain, du marché boursier américain. Et puis, Julien Pierre soulevait la question sur l'or. Pourquoi l'or monte et pourquoi aujourd'hui? Pourquoi maintenant? Alors qu'on a plutôt des taux réels, d'ailleurs, qui ont eu tendance à remonter un peu ces dernières semaines et ces derniers mois.
Ça peut intriguer beaucoup de gens, effectivement, puisqu'on a connu des mécaniques totalement inverses il n'y a pas si longtemps, où effectivement la montée des taux d'intérêt était un facteur aggravant sur le cours de l'or, ce qu'on peut expliquer. En réalité, et pour faire le parallèle avec ce qui vient d'être dit par Céline, on s'aperçoit depuis un an et demi maintenant, que l'aversion au risque a beaucoup chuté, que finalement, c'est pas seulement Nvidia qui a un gros poids au sein du marché actions, dont le prix monte, c'est en fait tous les actifs. parce que malgré les politiques de durcissement des politiques monétaires des banques centrales, les liquidités sont restées très abondantes. Et le marché sait très bien, puisqu'on l'a testé il y a pile un an, qu'en cas de problème, en cas d'émergence d'un risque bancaire, par exemple, comme ça a pu être le cas il y a quelques semaines, ou autre, ou facteur exogène, les liquidités sont à disposition au moins un certain temps. Et que par conséquent, ces liquidités sont restées très présentes par effet de capillarité. Une fois que le risque est bien retombé, on commence à s'investir. On s'est d'abord concentré cet argent sur les sociétés avec les plus gros potentiels, Nvidia, Semi, Tech, etc. etc. Et depuis 5-6 mois, se répandent, se percolent sur l'ensemble des secteurs, tant et si bien qu'aujourd'hui, et sur les autres classes d'actifs, tant et si bien qu'aujourd'hui, on a plutôt, ces dernières semaines, une surperformance de valeurs industrielles, cycliques, bancaires, qui prennent le relais de ce qu'il y a effectivement.
En Europe, les banques sont à plus 20 depuis le début de l'année. C'est mieux que la tech, en Europe.
Voilà. Donc la situation, en fait, l'argent est abondant, malgré tout. On parle quotidiennement, on tergiverse sur l'amplitude, le calendrier des baisses de taux, etc. Et c'est vrai que c'est une importance dans le calcul de rentabilité du capital, du coût du capital, du calcul de la prime de risque. Ça, on est bien d'accord là-dessus. Conceptuellement, c'est implacable. Simplement, il y a eu beaucoup d'entorses à cette mécanique financière ces dernières années, puisqu'implicitement, on a tous appliqué des primes de risque très élevées quand les taux étaient à zéro. Donc, on s'accommode bien, finalement, d'une situation asynchrone entre les mouvements de taux et la valorisation des actifs pour peu que la confiance soit là et que les liquidités soient là.
C'est ce qu'on appelle le momentum, quoi.
Oui. Alors, ce qui se passe en ce moment, c'est qu'effectivement, on sent qu'on peut avoir un report un peu plus fort que prévu de la baisse des taux et donc du prix de l'argent que prévu il y a quelques mois. Simplement, c'est pour l'instant, en tout cas, so far so good, une situation presque idéale puisqu'on n'a pas la récompense tout de suite, mais on sait qu'on va l'avoir. Et donc, finalement, c'est presque mieux que le moment où elle tombe. Hein. Donc, moi, je pense que la psychologie du marché, c'est un peu ça en ce moment.
Et puis, voilà. Si on reporte le calendrier des baisses de taux, c'est aussi parce qu'on a encore une économie en croissance, avec une croissance nominale très forte encore pour l'économie américaine.
Exactement. Donc, jusqu'à présent, en termes de marché, j'allais dire, tout va bien. Maintenant, c'est vrai que des valorisations ont beaucoup progressé. On a une expansion de la hausse sur tout un ensemble de valeurs. Et donc, va se poser le problème, j'allais dire, du point de jonction où là, on sait que vraiment le prix de l'argent va baisser, eu égard aux valorisations qui sont vraiment tendues depuis un certain temps, à moins qu'on ait de nouveau un game changer, un signal plus fort. Et puis, on sait qu'on est en année électorale, que l'argent, de toute façon, est abondant. Quand ce n'est pas la politique monétaire, c'est le budget. Ça ne sera plus le budget, ce sera de nouveau, peut-être, des politiques monétaires plus incitatives. Et tout ça, pour l'instant, finalement, porte la valeur des actifs et on sent...
Je préfère, comme vous dites, un rallye qui se diffuse, une participation à la hausse beaucoup plus large que simplement concentrer sur 3-4 valeurs, aussi performantes soient-elles, aussi belles soient-elles, etc.
Oui, absolument. Alors, pour terminer...
Il y a au moins quelque chose de cohérent de ce point de vue-là.
Néanmoins, tout a une fin. Au moins ponctuel sur un cycle. Et moi, ce que je décèle dans les outils que j'utilise, c'est qu'il y a une poursuite de la diffusion, mais on n'était peut-être pas loin du moment où réellement, là, la diffusion aurait été quasi généralisée sur le marché.
D'accord.
Parce qu'on a simultanément quelques petits signes quand même d'un marché qui se dit stop à la baisse de l'aversion au risque.
Donc on n'est pas loin d'avoir des signaux un peu contrariants, vous dites peut-être, de ce point de vue-là.
Et comme en termes de saisonnalité, dans le calendrier annuel du marché, on a eu un excellent premier trimestre. On sait très bien qu'il y a toujours un point de prise de consolidation avril-mai jusqu'où on peut aller porter après par les versements des dividendes. Et on sait que l'été, début de rentrée de septembre, là, c'est la situation dangereuse sur les marchés. Voilà, quand il y a secousse, quand il y a correction forte. Voilà un petit peu la situation par rapport à ce panorama américain et monétaire.
Ouais. Julien Pierre, je reviens à, alors on parlait du marché du travail américain, si on peut estimer que les hésitations ou les doutes du côté des banquiers centraux américains sur l'idée de baisser les taux dès le mois de juin sont légitimes, qu'en est-il pour la Banque Centrale Européenne? On a vraiment l'impression que là il y a un chemin ou deux chemins qui sont en train de s'écarter. Est-ce que la BCE, j'allais dire, comme une grande banque centrale avec un peu plus de 20 ans d'existence maintenant, peut prendre ses responsabilités dans un contexte économique en zone euro qui pourrait le justifier, sans attendre la Fed ou en s'affranchissant du calendrier de la Réserve fédérale américaine? Est-ce que le marché est prêt à ça? Est-ce que ça peut générer, je sais pas, des frictions, des tensions? Qu'est-ce que ça peut générer comme mouvement de marché?
Comme l'a rappelé un des gouverneurs de la BCE, la BCE n'est pas le 13e district du système de la Réserve fédérale.
Ah, je ne l'ai pas entendu celle-là. Très bonne.
Et non, effectivement, on a des situations économiques qui sont très différentes. Aux États-Unis, on a une économie, on l'a dit, un peu de no landing. Enfin, on reste sur une croissance assez forte, des sujets d'inflation qui ne sont pas totalement éteints. Zone euro, la situation est un peu différente. En termes de croissance, on a quand même eu deux trimestres à zéro moins en fin d'année. Les données d'activité sur le premier trimestre sont faibles. Ce matin, on a eu les ventes au détail. Les chiffres de production industrielle aussi ne sont pas très bons. C'est tout ça, c'est très lesté par l'Allemagne, mais globalement, enfin, ça reste assez mou. On commence à avoir un peu de mieux sur les enquêtes. Mais voilà, ça reste quand même beaucoup plus mou. On passe de zéro moins, peut-être...
C'est pas le grand décollage, quoi.
Voilà, c'est pas le grand décollage. En termes du marché du travail, on reste sur un taux de chômage qui est très bas. La bonne nouvelle, c'est peut-être sur l'inflation, ou si on exclut les prix des services... Mais on sait que les prix des services sont importants pour la durée des chocs inflationnistes. Or ça, on a quand même une évolution qui est quand même plutôt favorable. Et puis on le sent, lorsqu'on écoute tous les gouverneurs de la BCE, même les plus faucons se sont ralliés à l'idée d'une baisse en juin. La question, c'est après. Ouais. C'est vrai que la croissance est plus faible, donc... Peut-être 3, le marché aujourd'hui est sur 3-4 baisses.
Ouais, c'est ça.
Ce qui est intéressant, c'est que on est sur 3-4 baisses. Aux États-Unis, on parle peut-être de
2-3.
2-3, peut-être une, voire 0.
Oui, c'est ça.
Et pour l'instant, il y a quelque chose qui a assez peu réagi à tout ça, c'est l'euro-dollar.
Ouais.
L'euro-dollar qui reste autour de 1,08, on pourrait penser que, et ça sera peut-être déclenché par une matérialisation de ce différentiel, voire un dollar qui s'apprécierait face à l'euro sur les prochains trimestres.
Ouais, d'accord. Mais vous n'avez pas de doute sur l'idée que la BCE sera mûre en juin, pas la semaine prochaine, mais pour le meeting du mois de juin, pour... attaquer et entamer un cycle de baisse de taux.
Ils ont fait tout le travail de préparation, ils ont dit quels indicateurs ils vont regarder, donc sauf surprise sur ces fameux indicateurs du coût du travail, il est très probable qu'ils baissent à ce moment-là. On l'a dit, ce que ça peut déclencher, c'est un problème sur l'inflation, sur l'euro-dollar. Est-ce que ça peut avoir un gros effet sur l'inflation dans la zone euro, sachant qu'aujourd'hui, c'est beaucoup l'inflation des services, donc plus domestique, qui tire l'inflation. Je pense que c'est un peu de second ordre.
Comment vous réfléchissez à ce que ça peut apporter au marché, d'avoir quand même cette perspective de baisse de taux dans certaines zones, on peut débattre de la Fed, mais en zone euro, ça semble quand même plutôt écrit pour 2024. Dans les grands pays émergents, ça a déjà commencé. Céline, comment ça impacte le fonctionnement du marché? Et vous, dans vos choix d'investissement, quelle place est-ce que ça représente?
Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut effectivement avoir une certaine dichotomie entre ce qui va se passer de part et d'autre de l'Atlantique, qui pourrait effectivement, pour une fois, être plutôt favorable à l'Europe et aux pays en dehors des États-Unis. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant parce qu'effectivement, les marchés en dehors des États-Unis n'ont pas fait grand-chose depuis 15 ans. Voir la valorisation, je crois, du marché en dehors des États-Unis, au moins en price to book, il n'a pas bougé depuis 2000. Donc, ça vous dit que y a peut-être des choses à refaire ou des pierres à retourner ou des dossiers à regarder. Alors qu'effectivement, comme on le disait tout à l'heure, sur le marché américain, il y a beaucoup de pierres qui ont été retournées et des valorisations qui sont quand même très tendues. Donc ça laisse des potentiels de surprises qui sont intéressantes et ça laisse des dossiers qui sont effectivement potentiellement des dossiers qui pourraient nous porter pour les 10, 15 prochaines années.
Et donc, vous réfléchissez avec cette longueur d'horizon aujourd'hui, Céline. Sur 15 ans, les États-Unis sont imbattables versus le reste du monde. Il y a peut-être quelque chose d'un retournement de situation pour longtemps.
Voilà, et effectivement, c'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de 2000, mais quand on a des points de rupture, on l'a eu aussi en 1972, à la fin des Nifty 50s, on sait que quand on a des points de rupture comme ça sur les marchés, on a toujours des cycles. Quand on a la fin d'un cycle, on a un nouveau leadership qui émerge, avec une nouvelle histoire qui apparaît. Et donc, c'est ce qu'on a eu. Donc, en 2008, c'est quand même la chute de Lehman. Qui pouvait imaginer que, alors que les États-Unis étaient vus comme le pays au bord du gouffre, ça serait le pays qui allait dominer tous les marchés mondiaux pendant les 15 prochaines années? C'est pas forcément simple à le voir quand on le vit au moment où on le vit. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, à l'époque, c'était un marché qui était complètement délaissé. Je me souviens qu'on nous demandait toute la journée, vous avez quelle exposition sur l'Inde et la Russie? C'était l'obsession. On était obsédés par la croissance dans les pays émergents. Bon, voilà. Donc maintenant, on est en 2024, c'est plus tout le même environnement. Et pour le coup, on est devenu obsédé par ce qui se passe aux États-Unis et on regarde plus du tout d'autres dossiers. Et c'est ça qui fait que notre métier est intéressant en tant que gérant actif. Il y a des choses à faire. Et on parlait tout à l'heure de Total, par exemple. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on a des leaders en France qui sont exposés au monde entier et qui profitent de l'environnement actuel. On parlait de l'or également tout à l'heure. Et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, il y a quelque chose qui se passe aujourd'hui sur les matières premières.
Il y a quelque chose qui se passe clairement sur les matières premières. Et là aussi, la hausse se diffuse. C'est plus juste le pétrole, c'est les métaux, voilà. Industriels et précieux.
Le cuivre, etc. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que si vous regardez l'exploration de métaux, de gaz et de pétrole depuis 15 ans, on n'a quasiment pas exploré. Pourquoi? Parce qu'effectivement, on a un peu nettoyé les écuries, parce qu'il y a eu beaucoup de bêtises qui ont été faites justement pendant la précédente période euphorique de 2000 à 2010. Il a fallu 15 ans pour nettoyer tous les bilans. Et puis une fois qu'on a nettoyé tous les bilans, on n'a surtout pas investi pour l'avenir, parce que franchement, on avait déjà connu suffisamment de pain noir comme ça. Donc comme on n'investit pas, aujourd'hui on a des niveaux de stock pour tous les métaux qui sont au plus bas depuis 15 ans. Et donc quand on a des stocks qui sont bas et qu'on a un tout petit peu de croissance, ce qu'on n'attendait plus, parce qu'évidemment on était persuadé qu'il n'y aurait jamais de croissance, ça fait que on se retrouve avec un goulet d'étranglement et des prix qui montent.
Donc minière, producteur d'énergie,
des sociétés différentes. Effectivement, on parlait des biens manufacturiers, la demande qui s'améliore, là aussi ça peut profiter à des sociétés industrielles. Donc oui, il y a des choses à faire.
Et les banques
dans
tout ça?
Après, c'est dossier par dossier.
Et les banques dans tout ça, c'est le meilleur secteur en Europe sur un trimestre. Mais l'Europe fait mieux que le Nasdaq, l'Eurostock 50 fait mieux que le Nasdaq grâce à un secteur comme le secteur bancaire. Et les banques ont déjà très bien fait en 2023.
Tout à fait. Donc il y a effectivement, j'avais beaucoup... je crois que je suis venue ici d'ailleurs pour en parler quand il y avait eu la crise...
SVB ?
Oui.
Ah voilà. C'est possible, oui, SVB, bien sûr. Voilà. Ouais.
Et j'avais dit qu'il fallait prendre des crédits agricoles avec un coupon qui était très élevé. Mais effectivement, ça a très bien fait. La seule interrogation que j'ai aujourd'hui sur les banques européennes, c'est sur la partie immobilière. Voilà. Parce qu'effectivement, on parlait tout à l'heure de la hausse du coût du crédit. D'accord. La hausse du coût du crédit, les banques françaises, les banques européennes ont beaucoup d'exposition à l'immobilier. Donc, je ne sais pas à quel point elles vont être impactées. Donc, je préférais des banques en dehors. Voilà.
C'est l'idée qu'il y a un nouveau cycle, des nouveaux leaders là, qui vont s'installer peut-être pour longtemps. Parce que jusqu'à présent, quand même, effectivement, on a aussi parlé de la tech américaine. Enfin, je veux dire, l'un n'empêche pas l'autre. Les banques européennes peuvent très bien performer quand la tech américaine continue de bien se comporter. C'est ce qu'on voit d'ailleurs.
Oui. Enfin, faut se garder d'être trop radical dans les conclusions, parce que oui, là, il y a un rattrapage de secteurs qui prennent le relais dans le mouvement qu'on décrivait tout à l'heure. Après, ce qu'il faut pour autant gommer ou oublier ce qui a fait le cœur de la reprise boursière depuis quelque temps? Non. Alors après, on a le frein des valorisations, comme le disait Céline, mais les thèmes, alors sans parler de l'intelligence artificielle, mais on sait très bien que, à l'image des matières premières, la cybersécurité, c'est un truc vital au jour d'aujourd'hui. Et ça va pas s'effacer. Voilà, si on regarde les choses fondamentalement, au-delà des mouvements de rattrapage. Donc, moi, je serais moins radical dans la conclusion, Grégoire. C'est des choses qu'il faut savoir mitiguer, mélanger dans un portefeuille, pour pouvoir avoir un bon équilibre.
Sur l'or, vous m'avez pas totalement répondu tout à l'heure.
J'ai même oublié parce que j'étais parti dans...
Oui, alors, pourquoi l'or monte et pourquoi maintenant? Alors, les taux réels se mettent à remonter un peu.
Absolument, c'est pas du tout intuitif. Et il semble... En fait, l'or a longtemps été, jusqu'en 1971, en tout cas, ça l'a été pendant plus d'un siècle et demi, l'outil, en fait, une monnaie, une référence. Et quand on essaye de regarder ça à travers le temps, on voit que l'or a défendu le pouvoir d'achat. Alors, c'est difficile de l'estimer quand on remonte à la Rome antique, mais on a quand même une approche qui montre que ce qui n'est pas le cas de nos grandes devises. D'ailleurs,
ça a apporté une stabilité.
Ça permet de défendre le pouvoir d'achat. D'accord. Alors, quand on me rétorque, oui, mais ça ne procure aucun cash flow, bah, par définition, une monnaie, ça rapporte. C'est pas fait pour ça, une monnaie. C'est un moyen de transaction. C'est un étalon. Voilà, ça peut être une réserve de valeur pour transférer la valeur dans le temps, pour peu qu'il n'y ait pas trop d'inflation, c'est-à-dire pas trop de dévalorisation de sa monnaie. Là, les banquiers centraux ont depuis des années un objectif, qu'ils avaient atteint d'ailleurs, et dire c'est 2%. L'inflation. 2%, ça veut dire que votre dollar ou votre euro perd 2% de pouvoir d'achat chaque année. Et ce n'est pas le cas de l'or.
Et l'or peut être soumis à des variations aussi. De ça peut monter, ça peut baisser aussi.
Là, on parle tendanciellement.
D'accord.
Et quand on regarde ce qui s'est passé depuis 20 ans, moi, je pratique un exercice, je ne sais pas, beaucoup de gens le font, qui est très instructif, mais c'est de retraduire l'évolution des classes d'actifs et des marchés
en or.
En or plutôt qu'en euros, en dollars. Et là, on est très surpris du constat qu'on tire sur une période. Qu'on n'est pas du tout dans un bull market.
C'est pas les mêmes performances.
Sauf peut-être un peu le Nasdaq. Voilà. Ouais. Et du coup, là, on inverse les propositions et on s'aperçoit que psychologiquement, ça modifie beaucoup d'attitudes. Et mes analyses récentes, contacts, etc., montrent quand même qu'il y a un certain nombre de gens qui ont parlé de crédibilité des banquiers centraux, de leur politique, donc de la monnaie, commencent à se poser pas mal de questions. Simultanément, on voit émerger un nouvel or numérique, hein, dont on parle, qui est le Bitcoin. Et on voit que, alors, ce n'est pas synchrone, mais en tandem, on a une appréciation de ces deux actifs, de ces deux classes d'actifs, qui répondent à cette histoire-là. On est là dans des monnaies qui sont, si ce n'est déflationnistes, enfin, des actifs, hein, beaucoup de gens ne veulent pas appeler cette monnaie, comment dirais-je, en tout cas, très faiblement inflationnistes. Donc, voilà, alors... Il y a probablement une prise de conscience à un moment donné où le dollar reste la monnaie centrale, la monnaie de réserve, mais perd un petit peu quand même. Et à un moment où des conflits géopolitiques montrent qu'il y a d'autres systèmes alternatifs qui se dessinent. Donc quelque part, il y a des questions qui se posent, qui ne se posaient pas il y a 20 ans, 30 ans.
Ouais.
Voilà.
Moi, c'est mon analyse. On verra, je crois que le Zimbabwe lance une monnaie dollar. Alors, ils ont connu de l'inflation à 4 chiffres, hein, au Zimbabwe, donc voilà.
Mais
c'est ça. Ça reste un cas d'école.
Il y en a d'autres, mais eux sont pas mal.
Et donc, ils lancent un dollar baqué, adossé sur l'or, justement.
Ouais.
On verra ce que ça donne. Bah, sur l'or, je ne sais pas, quel est le message un peu macro, même, que vous retirez, ou monétaire, je ne sais pas, que vous retirez de la hausse de l'or aujourd'hui, en ce moment,
Julien Pierre. Ce soir, on a pas mal parlé, effectivement, d'histoire. Et c'est vrai que c'est intéressant, parce que, grosso modo, depuis le début des années 70, on est dans un système financier dominé par le dollar et le crédit. Est-ce que tout le monde est heureux avec ce système aujourd'hui? Ben, on a l'impression qu'il y a un certain nombre de banques centrales, hein, du côté, on peut penser une grande banque centrale du côté de l'Asie, qui verrait bien un autre système monétaire à l'échelle de la planète. Et on voit, hein, dans les facteurs de force de l'or sur les derniers mois, il y a pas mal d'achats de la part de ces banques centrales. Donc on a parlé un peu de géopolitique. Voilà, tout ça pourrait, dans les années à venir, évoluer.
Pour asseoir la crédibilité d'un autre système monétaire ou d'un système basé sur des devises différentes que le dollar comme il l'a aujourd'hui.
Certains peuvent faire l'analyse que la dérégulation financière qu'on a eue à partir des années 70, la forte croissance du crédit, a généré pas mal de crises. Et donc, un autre système pourrait être plus stable. Alors, il aurait aussi ses défauts, hein, comme on l'avait connu auparavant. Mais certains pourraient... Voilà, ça peut être partie des éléments qui amènent certains acteurs à acheter de l'or.
Alors, juste un petit...
Bien sûr.
Mot, mais concrètement, c'est vrai que ça fait déjà pas mal de temps que la Banque de Chine fait des achats réguliers,
massifs,
d'or physique.
C'est pas la seule, mais bien sûr.
Et essaye, à mon sens, un peu d'optimiser ses achats, parce qu'on a un cours de l'or qui, finalement, n'a pas énormément bougé malgré tout depuis quelques années.
Ah non.
Là, on a une phase, quelque part, à mon sens, de rattrapage. Mais on sait que ce sont des acheteurs réguliers. Bon, la Chine... qui est, d'un autre côté, en même temps, une économie hyper leveragée, très endettée aussi. Hein. Donc, tout ça est assez compliqué à comprendre. Mais on a des acheteurs, effectivement, importants du métal. Donc,
Bon, en tout cas, il y a les minières derrière. Céline, si vous voulez réagir, bien sûr.
Non, mais effectivement, ce qui est important de voir, c'est que je crois que depuis 1945, c'était 40% des réserves des banques centrales qui étaient en or, en moyenne, et on est tombé à 15%.
D'accord.
Et donc, effectivement, on est en train de remonter vers les 20. Mmh. On est loin des 40 qu'on avait en moyenne. Et effectivement, c'est très massivement une demande qui vient des pays émergents, enfin émergents, qui représentent maintenant, si on prend les BRICS, ou enfin les BRICS élargis, on doit être à 37% du PIB mondial. Donc en fait, effectivement, aujourd'hui, ils sont en train de nous envoyer le signal que peut-être qu'ils n'ont pas besoin d'avoir notre devise, surtout à un moment où géopolitiquement...
En même temps, quand on vend des produits aux États-Unis, on récupère... Enfin, je veux dire...
Oui, bon, ouais, mais c'est, vrai dire, que, c'est... Mais c'est vrai que le message qui a été envoyé à la Russie, il était très clair.
Ah, ça,
que,
oui.
Voilà, donc, ah, donc effectivement... Ben voilà, ça, donc du coup, sûr. Maintenant, ça a quand même fait peur.
On peut saisir
et après, il faut aussi avoir en tête que pour l'or, on a la moitié de la demande qui vient quand même de la joaillerie. Donc effectivement, il y a les trackers. Les trackers or, pour le coup, il n'y a aucune demande. Donc on voit bien que, alors, est-ce que ça a été remplacé par la demande dans les pays développés pour les bitcoins? Peut-être.
Il n'y a pas de flux sur les trackers.
Non.
Donc c'est ailleurs que ça s'achète.
C'est pas sûr. Enfin, d'accord. En tous les cas, les trackers, c'est pas. On n'a pas une spéculation d'accord. financière frénétique sur l'or.
D'accord.
On a une demande de la part des banques centrales. Et après, l'autre grand moteur, c'est le fait qu'on a de la joaillerie. Et la joaillerie, c'est qui? C'est pareil encore. C'est les Indiens et les Chinois qui consomment massivement de l'or comme valeur refuge lors des mariages, des fêtes, etc. Et quand on regarde, par exemple, les chiffres du Nouvel An chinois, je crois que la progression des ventes de joaillerie, c'est 22% cette année, en 2024. Donc, on a vraiment un appétit très fort dans ces pays pour l'or comme valeur, pour transmettre de l'argent dans le temps. Et ça, c'est culturel. Ouais. Et c'est, donc, comme c'est une population qui est beaucoup plus importante maintenant que la population de nos petits pays développés, finalement, je crois que les États-Unis et l'Europe, on doit pas être, on va se retrouver à 15% de la population mondiale. Ouais. Forcément, il faut quand même regarder ce que font les autres populations pour investir leur épargne sur le long terme. Mmh. Et donc, l'or en fait partie.
Bon, c'est sûr que les Chinois, après l'immobilier, après la
en
bourse,
plus,
je crois qu'effectivement, l'or peut-être, peut être...
Voilà. Mais il n'y a pas que, il y a les Indiens aussi.
Ah, bah, les Indiens, historiquement, oui, la joaillerie, effectivement, ça a toujours été... Il y a une vraie utilité physique de l'or, notamment dans ces pays-là. Bah, de l'or à la question des déficits et de la dette, là aussi, Julien Pierre, je voulais bien avoir votre éclairage. C'est le sujet permanent d'attention. Alors, on peut regarder les déficits américains, on peut regarder l'Europe et la France ou l'Italie qui s'attend à une procédure de déficit excessif. Le marché semble dire, pour l'instant, vous avez le temps. Il n'y a pas de panique de marché, en tout cas, sur ces sujets-là. Même peut-être une forme de bienveillance.
Oui, les marchés.
Comment ça s'explique ?
Parce que la croissance reste bien orientée, que voilà. Et puis en Europe, les marchés se disent que de toute façon, à un moment, la BCE interviendra pour caper les spreads. Donc le sujet n'est pas là. Mais c'est vrai que quand on y réfléchit en tant qu'économiste, on voit des déficits qui sont à 5, 6, 7% suivant les pays au plein emploi. Donc ça veut dire que le risque, ça sera au prochain retournement cyclique. Si ces déficits prennent encore 3-4 points, on se retrouvera à des niveaux vraiment très importants. Des questions sur les perspectives de croissance. Hein, si on est en récession, est-ce qu'on rebondira autant? Et là, peut-être que les inquiétudes pourraient se matérialiser. Après, aux États-Unis, tout le monde sait qu'il y a la Fed in fine. Mais voilà, on en revient à cette question du dollar, de la confiance.
Ça nous ramène à l'or. Dollar, il y a cette défiance un peu qui se traduit à travers la hausse des coûts.
C'est clair qu'il y a un sujet budgétaire aux États-Unis. Ouais. Quand on regarde les prévisions du long terme du CBO, on peut faire discuter les prévisions de croissance. Mais on est quand même sur des niveaux qui ne sont pas soutenables.
Comment on se positionne dans ce contexte de marché, là, après un très bon premier trimestre pour les actifs risqués, dans une gestion diversifiée, quels vont être pour vous les enjeux là, des prochains mois et comment on s'équilibre?
Alors, au sein de la poche action, nous, ce qu'on a plutôt fait, c'est effectivement d'aller hors des États-Unis, hein, parce que le marché américain, même si vous enlevez la tech, vous êtes quand même à 18 fois des résultats prospectifs sur des hypothèses de croissance assez fortes. Hein, donc, ça fait quand même cher. Hein, sur les, vous regardez, comparez ça aux 20 dernières années. En Europe, on a commencé à se réexposer sur les petites capitalisations.
Ah.
Hein, un peu les oubliés des deux, trois dernières années.
Ouais.
Et on parle, voilà, cycle manufacturier, c'est quand même des valeurs qui peuvent bénéficier dans cet environnement.
24 doit voir une amélioration de ce segment de marché.
Alors nous, nos gestionnaires spécialisés sur cette classe d'actifs disent que les entreprises commencent à dire que un peu les excès de qu'on avait pu avoir ou les problèmes de stock sont en train d'être résolus et que en tout cas les attentes du marché sont très prudentes.
Ouais. D'accord.
Donc ça, c'est intéressant. Au niveau de la poche obligataire, on a remis des protections contre la hausse des taux américains. On a réaugmenté nos expositions au dollar, hein, parce que voilà, si les taux américains montent plus qu'en Europe, normalement, à un moment, le dollar devrait
s'apprécier. Ouais. Ouais. Ça va mettre de la pression quand même, ça.
Sur qui ?
Je ne sais pas, sur peut-être le yen japonais, par exemple, sur d'autres devises.
Oui, le yen dollar, aussi, ça c'est...
Un dollar encore un peu plus fort qu'il ne l'est déjà, sur des parités qui sont déjà le yen japonais. Voilà, on voit que
152... c'est aussi une des positions longues qu'on a, parce qu'on trouve que, en valorisation, c'est très bas. Parité de pouvoir d'achat, etc.
Ouais.
À notre avis, les marchés ont été ont une lecture très dovish de la BOJ, parce que je pense que la BOJ ne voulait pas créer de secousse. Ouais.
Mais l'histoire n'est pas finie.
Quand même, dans une optique de normalisation.
Je crois que quelques commentaires de Kazuo Ueda ces dernières heures, le gouverneur de la Banque Centrale du Japon, ont redonné peut-être un peu d'allant à l'idée qu'il y aurait peut-être plus qu'une seule hausse de taux.
Donc on pense que sur les yens, on peut avoir aussi des choses intéressantes.
Qu'est-ce qui vous intéresse en ce moment, Céline ?
Mais effectivement, je suis tout à fait d'accord sur le fait que le yen peut être la grande surprise de l'année. Et donc, c'est pas idiot, par rapport à ça, d'aller chercher des sociétés domestiques japonaises.
Ouais.
Parce que jusqu'à présent, on jouait le Nikkei en jouant les exportatrices. Mais donc là, plutôt aller chercher des sociétés qui sont exposées à la...
Et qui ne souffriraient pas de la hausse du yen. Qui ne souffrirait pas de la hausse du yen.
Vous prenez des sociétés domestiques, des pharmacies, des choses du commerce de détail au Japon, ils ne sont pas du tout exposés à ce qui va se passer. Donc ça peut être très intéressant, parce que là, vous avez des sociétés, c'est quand même le marché japonais qui a été délaissé pendant 30 ans, donc il y a quand même des choses à regarder. Donc ça peut être intéressant, et en plus, du coup, vous pouvez avoir la hausse de la devise en même temps. Donc ça me semble un truc intéressant. On a parlé beaucoup tout à l'heure de l'or, mais... Comme vous le savez, les mines d'or n'ont rien fait cette année, sont toujours en baisse.
Depuis le début de l'année,
toujours en baisse, donc elles ont progressé depuis un mois, mais il y a quand même quelque chose qui ne fonctionne pas complètement.
Il y a un petit décalage entre la hausse des cours de l'or et le...
Ça semble assez facile quand même d'aller chercher ces sociétés-là, c'est évident de penser qu'il va y avoir une augmentation du cash qui va être généré par ces entreprises, donc ça c'est une idée qui me semble intéressante. Et puis après, effectivement, plutôt, pareil, ce que je disais tout à l'heure, les sociétés sur l'énergie, l'industrie en Europe et en dehors. Et ce dont j'ai pas parlé, on parlait aussi des matières premières, mais on n'a pas parlé des pays émergents, mais je pense toujours qu'il y a quand même des choses à faire en dehors de l'Inde, qui est le pays le plus cher aujourd'hui avec les États-Unis. Donc,
c'est quoi en dehors de l'Inde alors,
Vous avez l'Amérique du Sud, il y a l'Asie, la Chine bien sûr, mais aussi l'Indonésie, tout l'axe asiatique qui me semble intéressant. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire, et c'est des pays qui étaient surexploités avec les BRICS il y a 20 ans et qui sont aujourd'hui complètement sous... regarder.
Ah ouais, bien sûr.
Donc ça me semble intéressant de les regarder.
Yves, qu'est-ce qui peut vous paraître intéressant, vous, dans ce marché ? On a parlé de l'or, bien sûr, des matières premières, sur l'idée des small et mid cap, je ne sais pas.
Oui, alors.
Il y a un alignement quand même à un moment qui fait que...
Est-ce qu'il manque ? Parce que c'est flagrant, en fait, la décote.
Ah bah c'est l'éléphant dans la pièce d'une carte de la valorisation.
Et,
large,
et c'est flagrant entre ce qui se passe dans le non-coté, qui est vraiment le domaine à la mode depuis 2-3 ans, et qui a en fait capté des flux.
Ouais.
Et qui empêche et qui a tiré des flux du compartiment coté, ce qui est un paradoxe. Et donc là, il y a
une prime d'illiquidité et une décote de liquidité sur ce segment mid market.
Là aussi, on marche sur la tête. Et donc, il manque plus que quoi ? Et c'est ce qui n'arrive pas pour l'instant ou peu, quoique on a des petits signes là aussi d'argent qui arrive sur des produits indexés small cap. C'est des flux. Des flux qui pourraient corriger. Il faut faire attention parce que ça peut être très rapide, en fait. Parce que
on a une petite répétition en fin d'année. Ouais. Sur quelques semaines, on a vu que
on a
ça
vu
pouvait effectivement
dans
être
le sillage
violent
de ce qui s'était passé sur le Russell aux États-Unis à partir d'octobre-novembre, effectivement, puis ça s'est estompé.
Ouais.
Donc ça, c'est un segment intéressant. Sinon, en termes actions sectorielles, pour aller à l'essentiel, moi, je regarde les idées de croissance de long terme. certes peut-être cher à très court terme, j'ai parlé de cybersécurité, voilà, qui reste dans les domaines tech. Et puis à plus court terme, là je rejoins Céline, c'est que en plus on est sur une sorte de barbelle en termes de gestion action, ouais, avec des secteurs liés aux matières premières, au pétrole, acteurs dans le pétrole, sur les services pétroliers qui montrent techniquement des signaux très intéressants, et puis des sociétés minières qui effectivement pour pas mal d'entre elles affiche des retards assez forts par rapport aux sous-jacents en matières premières. C'est vrai sur les métaux précieux, mais aussi sur d'autres valeurs minières. Voilà.
Ça fait partie des secteurs en retard. Merci beaucoup. Merci à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Yves Maillot, président de YAM Capital, Julien Pierre Nouan, directeur des études économiques et de la gestion diversifiée de Lazard Frères Gestion, et Céline Picmal-Prade, présidente de Picmal Houghton Investments.